profession simple, deux professions simples. Et puis, envie de te préparer à l'année mariale. Soyons particulièrement attentifs à toutes les fêtes de Marie. Surtout celles qui font partie du rosaire. Puisque le rosaire doit être pour nous la grande pédagogie mariale. C'est ça qu'on doit demander à la Vierge Marie, c'est qu'à travers le rosaire, on puisse entrer pleinement dans son éducation. Qu'elle nous éduque à la vie divine, qu'elle nous éduque à la contemplation, qu'elle nous apprenne vraiment à entrer dans une vie de foi, d'espérance et de charité. Alors le mystère de la présentation de Jésus au temple, vous voyez bien dans Saint Luc, puisque c'est le texte de Saint Luc qu'il faut méditer. Lorsque furent révolus les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. La purification avait lieu donc 40 jours après la naissance pour les enfants mâles, Lévitique 12, 2, 5. 40 jours, enfin, tu vois, c'est 40 jours, faut pas l'oublier. 40 ans du désert, 40 jours, qui expriment ce temps de purification. Et pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, alors, c'est 10 multiplié par 4, hein, n'oubliez pas, comme dirait saint Thomas, à la suite de saint Augustin. Alors, 4, c'est le chiffre humain, et 10, c'est la plénitude des préceptes, donc, c'est pour que l'horizontal soit parfait. Hein, c'est ça, c'est la purification de l'espèce humaine dans les premiers-nés. C'est vraiment du côté de l'homme. Pour offrir en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Alors, le premier-né appartenait au Seigneur. On devait donc le racheter. Et ce rachat n'exigeait pas la présentation de l'enfant au sanctuaire. Celle-ci était cependant possible et a dû avoir lieu à Jouberosti dans le cas de Jésus. Alors, je renvoie à l'Exode et puis au nom, c'est facile de trouver ces textes. C'est intéressant, du reste, parce que c'est là où on voit que Jésus vraiment a voulu être pleinement soumis à la loi. Il a voulu entrer pleinement dans la loi. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Alors, ayez devant les yeux la peinture de Frangelico. Le petit Jésus est particulièrement bien représenté. Vous voyez bien. On voit le vieillard Siméon et puis la Vierge Marie. Ah, ce qui est très beau, c'est que Marie suit la loi et le vieillard Siméon ému par l'Esprit Saint. Alors, on pourrait dire que ça devrait être l'inverse. Marie est sous la mouvance de l'Esprit Saint et le vieillard Siméon suit la loi. Eh bien non, on nous montre l'inverse ici. C'est très très beau pour montrer le lien qui existe entre cet achèvement de la loi dans le cœur de Marie, dans le cœur de l'enfant Jésus, et dans le vieillard Siméon. C'est très net. Marie aurait pu très bien, puisqu'elle savait, dire que Jésus était exempt. Que la loi ne porte sur Jésus et sur Marie. C'est bien évident. Donc ils sont exempts. Et Marie, pour être plus docile au Saint-Esprit, pour être plus cachée, ne fait pas appel à son privilège. Ça, je crois que c'est très important pour nous. Parce que nous, dès que nous avons un privilège, on fait tout de suite appel à ce privilège. Pour s'exempter de la loi commune. Parce que la loi commune, c'est jamais très drôle. Hein. C'est les communications en commun. Alors, tant qu'on peut, on essaie d'avoir ses moyens propres. Et la vie religieuse, c'est les communications en commun. C'est pour ça que c'est jamais très drôle. Pour notre sensibilité un peu poétique. Notre sensibilité d'artiste. La vie religieuse est toujours un peu rude. Parce que c'est vraiment les communications en commun. C'est le règlement. Ça n'a pas raté l'heure. Puis si vous n'êtes pas là, les repas doivent toujours être à telle heure. La messe doit toujours être à telle heure. Si on n'est pas là, ça doit partir indépendamment de nous. C'est comme ça la vie religieuse. Bon, ici, il y a une souplesse dans la vie religieuse. Mais malgré cette souplesse, c'est quand même encore comme ça. Ça m'a toujours beaucoup frappé quand j'étais jeune religieuse. Que le prieur soit présent ou pas, prieur, que l'abbé soit absent, voilà. Le repas a lieu à la même heure. D'un manque de politesse, invraisemblable vis-à-vis d'un abbé. Aucun religieux ne le sent, c'est l'heure. C'est extraordinaire, c'est très grossier. Bien évidemment. où elle habite est plus sain que le temple, puisqu'elle a Jésus. Et Marie va au temple pour être cachée. Ça, c'est l'humilité. Ne pas faire appel à ses privilèges. C'est très très rare qu'on ne fait pas appel à ses privilèges. Alors, c'est pas érigé en principe, hein. C'est un esprit, ça. Alors que le vieillard Siméon, lui, il est poussé par l'Esprit Saint. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Alors la consolation d'Israël, on voit bien dans Isaïe 41, 49, 13. On parle de la consolateur, du consolateur. C'était un des titres du Messie. Donc, il attendait le Messie. On ne sait pas c'est qui. Alors, les exégètes du Moyen Âge, Cajetan qui a commenté toute l'écriture, hein, ce scolastique, toute l'écriture. Alors, à propos de Siméon, je n'ai pas tout lu ce qu'il disait, mais j'ai lu beaucoup de Cajetan commentant l'écriture. C'est intéressant. Ceux qui s'intéressent au sens littéral, au sens. On voit très bien que chez Cajetan, ça a joué énormément, ça. Alors, Cajetan dit il était sûrement de la tribu de Lévi. Parce que il avait un fils de prêtre. Je crois que c'est juste, hein. Puisque exégétiquement, historiquement, selon le sens historique, vous ne savez pas. Mais si vous essayez de comprendre la fonction, vous voyez, par la fonction, découvrir la personne. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Mais c'est comme si maintenant on avait reçu une motion de l'Esprit Saint en disant « On ne mourra pas avant la venue du Christ. » Très bien, ça fait partie de ces gens pieux et craignant Dieu. Le Seigneur averti. Tout à fait un bon vieux curé vous disant j'ai été averti que j'attendrai que je verrai la consolation de l'Église. Et la consolation de l'Église, c'est le retour du Christ. Et il vint par l'Esprit dans le temple. Et comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour faire à son égard selon la coutume imposée par la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, ô maître, tu peux congédier ton esclave selon ta parole en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révélera aux nations et gloire de ton peuple Israël. » L'Église a gardé ce cantique du vieillard Siméon, Benoît Timitis, Marie. Le cantique du père de Jean-Baptiste, Zacharie, et le vieillard Siméon. Les crieux, hein, ce choix, sûrement très pesé par l'Esprit Saint. Alors essayez de comprendre pourquoi. Parce que ça fait partie de toute la structure de l'office. C'est la pièce principale. C'est sûr, c'est la pièce principale. On en ajoute tout d'autre. Mais il faut les laisser cela en pleine lumière. Et il donne une lumière très particulière, le Magnificat, le Benedictus et le Nunc Dimittis. C'est quand même très très grand. notre lien avec Jean-Baptiste, qui demeure et qui doit demeurer, surtout pour la vie monastique. Alors voyez, il est averti par l'esprit. C'est très beau parce que c'est, je crois qu'on peut le dire, selon le sens littéral, on ne pourrait pas, mais on peut le dire. Le vieillard Siméon représente le sacerdoce lévitique. Et le sacerdoce lévitique va recevoir Jésus dans le temple. Et le sacerdoce lévitique, dans le vieillard Siméon, laisse passer devant Jésus. Vous voyez, les grands prêtres, c'est très beau parce que on voit très bien là le partage qui se fait. Les grands prêtres refuseront de laisser passer devant Jésus par jalousie pontificale, tandis qu'au contraire, le vieillard Siméon, lui, il attendait. Maintenant, ô maître, tu peux congédier ton esclave selon ta parole. Il laisse passer devant Jésus, mais de la manière la plus simple, la plus vraie qui soit, en paix, selon ta parole. C'est comme cela que tout aurait dû se passer. Ça s'est passé pour le vieillard Siméon. Et c'est comme cela que tout aurait dû se passer dans le peuple d'Israël par rapport à Jésus. C'est très beau qu'il y ait un exemple. Et cet exemple vis-à-vis de ce vieillard. Donc, prêtre. Et pour que tout s'achève par l'offrande qu'il fait de Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. Vous voyez, le mystère du salut qui est mis en lumière depuis Élisabeth, la mère de mon sauveur. C'est la ligne de crête par rapport au mystère de Jésus. Le Messie, c'est celui qui vient sauver, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière qui se révélera aux nations et gloire de peuple Israël. C'est aussi très beau de voir ce lien entre la gloire pour le peuple d'Israël et la lumière pour les nations. La gloire, c'est l'achèvement, et la lumière, c'est sortir des ténèbres. Vous voyez la différence. Jésus apporte pour le peuple d'Israël la gloire, et il apporte pour ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, la lumière. Parce qu'il apporte pour tous ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, la foi et la lumière, la parole de Dieu. Au peuple d'Israël, il apporte l'achèvement, la gloire. La gloire, c'est la victoire de l'amour. La gloire, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'achèvement. C'est le mystère de l'acte. Dans la vie humaine, dans la vie politique, c'est la gloire. Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Pour être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que de bien des cœurs soient révélés les raisonnements. C'est une extraordinaire simplicité, hein. la serre. Elle était fort avancée en âge, après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari. Elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, rendant un culte à Dieu, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Et survenant à l'heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui entendaient leur rachat de Jérusalem. On voit très bien la scène. On dirait aujourd'hui, elle est un peu folle, cette pauvre vieille. On voit très bien, elle est habituée là. J'ai bien tapé, on voit très bien. Déjà, vous souvenez, hein, pour la mère de Samuel, le jugement du prêtre, d'Élie, elle radote. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ici, on voit encore beaucoup mieux. C'est très important pour nous, parce que ne pas juger selon l'extérieur. Mais il y a là quelqu'un qui est témoin extrinsèquement et qui est sous la couvrance de l'Esprit-Saint. Donc on va essayer de comprendre un peu. On voit d'abord, vis-à-vis de ce geste prescrit par la loi, la confirmation de la grandeur de ce geste et de l'importance de ce geste. C'est lié à l'agneau pascal, c'est lié au premier-né. Ils avaient tous péri en Égypte. Et le peuple d'Israël avait été lui sauvé. Et donc, il faut qu'ils comprennent ça. Donc, c'est un signe de la sollicitude de Dieu pour Israël. C'est un signe, un sacrement, c'est un sacrement de la présence de Dieu pour Israël. Et les premiers-nés, pour bien comprendre justement que c'est Dieu qui veille, surtout le mystère de la survie, la fécondité. Et Dieu se sert de cela pour que le vieillard Siméon puisse, lui, rendre ce témoignage. Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de témoins. C'est Marie. Très important pour comprendre la source de ce début de Saint-Luc. Ça ne peut être que Marie. Et on voit bien l'attitude de Marie et Joseph qui sont dans l'étonnement. Première fois que l'enfant Jésus entre dans le temple. Première fois. Bien, c'est tout de suite. Pour cette chose extraordinaire, cette rencontre, et les rencontres providentielles. Et alors, ensuite, la bénédiction. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, vois cet enfant, donc le regard prophétique du vieillard Siméon sur l'enfant, sur Jésus. Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Pierre d'achoppement. Jésus à la croix est une pierre d'achoppement. En face de la croix, on ne peut plus garder la neutralité. C'est impossible. On ne peut plus être neutre. On est ou pour, on est ou contre. C'est ce côté très très raide, nous dirions aujourd'hui très vertical du mystère de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. amont. Et quand on l'interprète aujourd'hui, l'interprétation que faisait le cardinal Journet sous l'influence de notre cher Jacques, ici, il faut mettre un intermédiaire. Et on voit très bien. Mettre un intermédiaire, c'est de pouvoir dire, mais oui, il y a peut-être une zone intermédiaire, on ne sait pas, alors celui qui n'est pas avec moi contre moi. Ben oui, il y a des choses humaines qui sont bonnes, qui ne sont pas pour le Christ, qui ne sont pas contre le Christ. Et donc, une zone intermédiaire, ça c'est l'humanisme. Vous voyez, c'est intéressant, tu vas voir ça. Parce que c'est ce côté très raide. Parce qu'il faut le reconnaître. Il y a une douceur extraordinaire dans le Christ. Béatitude des tout. C'est sûr, il y a la béatitude des tout. Mais il y a aussi celui qui a faim et soif de la justice. Et alors, au niveau de la justice, c'est raide. Est, est, non, non. Parce que les hommes cherchent toujours une position diplomatique intermédiaire. Qui n'est pas l'évangile. L'évangile a quelque chose de beaucoup plus absolu. Alors ici, on voit le mystère même de Jésus annoncé prophétiquement par le vieillard Siméon. Cet enfant est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Pour la chute, parce qu'il scandalisera. Pierre d'achoppement. Il y a la croix, pierre d'achoppement. Scandale et folie. On n'arrive pas à accepter. Et quand dans notre vie, la croix se dresse et que la croix prend son importance, on risque toujours d'être scandalisé. Alors, et relèvement, alors, au point de vue de la foi, il est le salut, il est la sagesse. On retrouve exactement la même chose. C'est ça qui est impressionnant. C'est que vis-à-vis de Jésus, on ne peut pas rester neutre. Il n'y a plus de neutralité. Je crois que c'est dans ce sens-là, vous voyez, où le mystère du Christ mûrit l'humanité. Terriblement. L'humanité, elle est faite pour les traditions religieuses. Les traditions religieuses, elles peuvent être multiples, elles drainent tout quelque chose de bon. Quand il s'agit de la foi, est, est, non, non. Celui qui n'est pas avec moi contre moi. Alors on dira, c'est du fanatisme. Traduit au plan tradition religieuse, ce serait du fanatisme. Mais si c'est vu dans la lumière de la foi et de l'évangile, ce n'est plus du fanatisme. C'est le propre de la foi. Et la foi ne peut pas être autrement. Oui, c'est ça qui me semble très important et bien souligné. Parce qu'on retrouve des fanatismes aujourd'hui, hein, et on les connaît bien, des fanatismes religieux. Le fanatisme religieux est odieux. Mais il ne faut pas, au nom de ce fait que le fanatisme religieux est odieux, transporter du côté de la foi la même attitude. Alors je crois que c'est constamment ce qui se fait. Parce que, au nom des traditions religieuses, il y a un certain relativisme, il y a un pluralisme, comme on dirait. Tu vois, un certain pluralisme, il y a toujours eu un certain pluralisme. Tandis qu'au niveau de la foi, il n'y a pas de pluralisme. Il ne peut pas y en avoir. Parce que la foi chrétienne adhère à la révélation immédiate de la vérité première. Alors si on se met à confondre foi et tradition religieuse, voyez toutes les catastrophes qu'on peut faire. Et je crois que c'est ce qu'on voit constamment aujourd'hui, quand on regarde attentivement. Parce que dire « celui qui n'est pas avec moi est contre moi », ceci ne peut se comprendre que dans une lumière de foi. En dehors de la divine foi, c'est du fanatisme. Alors, le fanatisme conduit à la secte. Oui. Parce que c'est ça, la secte. C'est de mettre un absolu là où il n'y est pas. Alors, maître d'absolu, n'oubliez pas, c'est que tout absolu devient odieux. Et on rejette l'absolu d'un fois. On confond la vie religieuse et les sectes. Alors que la vie religieuse chrétienne n'est pas une secte, parce qu'elle est au niveau de la foi. Et au niveau de la foi, il y a quelque chose d'absolu. C'est le mystère de Dieu qui nous est. Tandis que la secte est mettre un absolu dans une attitude religieuse. Parce que c'est souvent teinté de nature religieuse, mais dans une attitude religieuse, une tradition religieuse. Les traditions religieuses n'ont pas d'absolu. Au sens, propre, c'est dans ce sens-là que la métaphysique peut critiquer les traditions religieuses. Tandis que la métaphysique ne peut pas critiquer la foi. Elle ne peut que la respecter. Tandis que les traditions religieuses, oui. Donc, il y a là un petit discernement extrêmement important pour comprendre la force de ces paroles. Vois cet enfant et pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Un signe en but à la contradiction, c'est-à-dire que Jésus, par sa propre attitude, va susciter constamment des contradictions. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ça, c'est aussi très important. La prophétie du vieillard Siméon, qui regarde le cœur de Marie, se poursuit, qui regarde le cœur de Jésus, veut dire, se poursuit sur Marie. Alors, c'est Saint Jean-Eudes, grand dévot de la Vierge Marie, les eudistes, n'oublions pas, notre évêque est eudiste. C'est Saint Jean-Eudes qui, en commentant ce passage, fait cette remarque très audacieuse. C'est pas du sens littéral, c'est pas du sens historique, mais c'est du sens littéral mystique. Saint Jean-Eudes fait cette remarque, cette dernière prophétie qui regarde Jésus. Qui se réalise dans le temple, unit la mission de Jésus et celle de Marie. Et par là, on peut unir la mission du Christ et celle de l'Église, ce que fait le Saint-Père dans sa première encyclique. Il le dit expressément, la mission de l'Église est la même que la mission du Christ. C'est très audacieux ça, parce que ça veut dire que votre mission, que notre mission à chacun d'entre nous est la même que celle du Christ. Et tout ce qui n'est pas dans le sens de la mission du Christ, ben, est en dehors de la mission de l'Église. Et là, vous avez un critère de discernement qui est très très fort. Et quand Saint Jean-Eudes dit ça, il dit quelque chose d'extrêmement important pour nous. Alors Saint Jean-Eudes donc dit... que cette dernière prophétie qui se réalise dans le temple unit la mère et l'enfant. Unit l'enfant et la mère. Alors, il ajoute toutes les prophéties de l'ancienne alliance qui regardent le Messie et Jésus, regardent Marie. Puisque là, nous avons cette dernière prophétie qui regarde Jésus et qui se prolonge en Marie. Vous voyez, c'est très beau ça, parce que ça donne vis-à-vis d'un regard sur la Vierge Marie à travers toute l'Écriture, un regard extrêmement fort. Et ça rejoint ce que Saint Jean le disait dans un autre endroit. L'Esprit Saint aime tellement Marie qu'il en parle tout le temps. Mais il l'aime tellement qu'il la cache. Alors elle est présente, mais d'une façon cachée. Et à travers toute l'Écriture, Marie est présente. Ce que je crois être très vrai. Alors c'est justement là où il faut être très fort sous le souffle de l'Esprit Saint pour ne pas tomber dans un sens accommodatif et rester dans un sens mystique. Et quand saint Thomas nous dit que toute parole de Dieu implique le Verbe, et comme le Verbe spire l'amour, toute parole divine spire l'amour. C'est-à-dire que toute parole divine s'achève dans un accroissement d'amour, dans un appel à un plus grand amour. Tant que la parole divine n'a pas réalisé dans votre cœur cette croissance d'amour, ça prouve que cette parole n'est pas encore ultime en vous. Vous restez encore à l'extérieur. Vous restez encore dans une perspective qui est trop humaine et qui n'est pas assez divine. Alors, je peux dire que la parole divine, quand elle est saisie en plénitude, quand elle est saisie comme elle doit être saisie, regarde Jésus et regarde Marie. Et donc, il y a quelque chose par rapport au mystère de Marie que nous devons essayer de concevoir. C'est très beau comme considération d'un saint par rapport au mystère de Marie. Voir que l'Esprit Saint qui pousse le vieillard Siméon à parler de Jésus montre tout de suite à Marie combien, avec ce mystère de son Fils, elle est aimée. Puisque si la mission de Jésus, la mission de Marie de Fonquin, ça prouve qu'elle est aimée d'un amour unique. Puisque c'est par le point de vue de la finalité qu'on voit l'intensité de l'amour de quelqu'un pour nous. Alors Marie est unie à la mission du Christ de cette manière particulière, et toi-même une épée te transpercera l'âme. Attends, on continue avec le signe en but à la contradiction. La contradiction que Marie devra subir, c'est justement cette épée qui transpercera l'âme, son âme. Parce que Marie subit la contradiction de Jésus. Et en subissant cette contradiction de Jésus, elle-même est entraînée à vivre ce mystère d'avoir son âme qui est transpercée par cette épée. Et on précise, afin que de bien des cœurs soient révélés les raisonnements, les secrets. C'est Dieu qui veut associer Marie à une intimité de vie entre Jésus et elle, entre Jésus et nous, pour que Marie soit source de grâce pour nous. C'est le mystère de sa maternité. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que de bien des cœurs soient révélés les raisonnements. Donc c'est une des révélations les plus intimes sur Marie et les plus ultimes sur Marie. C'est, je crois, la grande révélation qui nous aide à comprendre le mystère de la compassion. C'est par là que nous pouvons découvrir le mystère de la compassion. C'est que Dieu, dans sa sagesse, veut que Marie achève, complète le mystère de la croix. Et donc, si Dieu, dans sa sagesse, veut que Marie achève et complète le mystère de la croix, il est nécessaire pour nous, si nous voulons aller jusqu'au bout de la compréhension de ce mystère, de regarder le mystère de Marie. Et tant que nous n'avons pas regardé le mystère de Marie, nous n'atteignons pas Ce qui est ultime dans le mystère de la croix. Ce qui est ultime dans le mystère de la croix nous est révélé par le mystère de la compassion. Et nous pouvons le comprendre que là. Vous voyez, comme ça donne à ce regard sur Marie quelque chose de très très important, quelque chose de très unique. Et tout cela, ça se réalise d'une manière prophétique, si vous voulez, c'est prophétiquement que le Bienséant dit ça, et ça se réalisera progressivement. Vous voyez, pourquoi, quand il s'agit de la douleur, il y a un avertissement prophétique? Et pourquoi, quand il s'agit de la joie, il n'y en a pas eu? C'est très curieux, ça, dans l'économie divine. Et je crois que c'est très important, parce que ça fait partie vraiment de l'économie divine, surtout. Dans le mystère de la joie, l'ange Gabriel trouve Marie et immédiatement lui demande son fiat. Il n'est pas venu trouver Marie en lui disant « Dans 6 mois, on verra. » Ou « Dans 1 mois, on verra. » Ou « Dans 8 jours, on verra. » Non. Tout de suite, Marie a compris qu'elle devait donner son fiat. Donc, l'exigence de sa coopération est demandée immédiatement. Tandis que quand il s'agit de la douleur, de la souffrance, donc de son union avec Jésus, sa coopération avec Jésus, dans le mystère propre de Jésus, dans son union douloureuse avec Jésus, alors il y a cette annonce prophétique. Il est au début de la vie de Jésus. Il faut que Marie porte le glaive prophétiquement annoncé. Ce qui est prophétiquement annoncé est déjà réalisé. Quand il s'agit de la souffrance, que Marie porte ce glaive dans son âme. Et je crois que c'est parce que la joie est plus immédiatement comme naturalité avec notre nature humaine que la souffrance. Et pour que notre nature ne se revive pas, il y a l'annonce. Je crois que c'est la raison profonde. Que la joie, ça n'a pas été. Pourtant, c'était très important pour la vie de la 13e Vierge, surtout par rapport à Joseph. Et Dieu l'a pris immédiatement dans un rapt d'amour. Tandis que la souffrance, il lui annonce. Et longtemps d'avant. 33 ans d'avance. Je crois que c'est parce que la joie étant plus proche de nous, comme naturalité, on n'a pas besoin d'annoncer d'avance. Vous pouvez entrer tout de suite. La souffrance, c'est autre chose. On n'est jamais comme naturel à la souffrance. Et c'est que par le point de vue divin que nous pouvons l'accepter. Alors c'est annoncé d'avance pour que nous puissions l'accepter pleinement. Il me semble, on peut dire ça. Parce qu'on pourrait dire que la souffrance, de fait, dans un régime chrétien, est plus immédiatement proche que la joie. C'est surtout de la souffrance dont nous avons conscience. Beaucoup plus que de la joie. Mais le message de l'ange, prenant quelque chose de tellement profond en elle, sera mère de Dieu et mère de Jésus. Cette maternité. peut se réaliser tout de suite. Elle doit se réaliser tout de suite. Ici, au contraire, il s'agit de porter la souffrance de Jésus, de coopérer à son mystère de la croix. Alors c'est annoncé. À cause de la très grande difficulté que nous avons du point de vue naturel d'accepter la souffrance. Un peu héroïque. Donc, vous voyez ce lien que le vieillard Simeon établit entre Jésus et Marie. Ce lien d'amour souligne-la et montre la finalité afin que de bien des cœurs soient révélés et raisonnements. C'est pour que Marie puisse pénétrer pleinement au plus intime de notre cœur. Pour que ce soit Marie en premier lieu, qu'ils reçoivent l'ouverture du cœur, vous voyez. C'est ça, au fond. Toutes les souffrances doivent passer par le cœur de Marie. Toutes les souffrances, toutes nos souffrances. Et pour que nous comprenions bien la place de Marie dans le mystère de la souffrance. Ça me semble absolument capital, vous voyez. Il y a quelque chose là de très important pour nous à saisir dans l'éducation de Marie, au point de la souffrance. C'est bien ce mystère de la purification. Les exigences très très grandes du Christ dans l'ordre de l'amour qui impliquent nécessairement de très grandes souffrances. Alors c'est surtout cela que nous avons demandé à la Vierge Marie, que nous puissions vivre très fort à l'unisson de son cœur et que toutes les souffrances nous puissions les porter avec elle, nous puissions compatir avec elle.